Alternative en habitat bioclimatique. Je dis bien alternative en habitat bioclimatique parce que je vous parlerai de choses qui sont des alternatives aux habitudes de construction bioclimatique qui sont déjà présentées elles-mêmes comme des alternatives pour essayer d'aller un petit peu plus loin sur les principes de masse thermique, de simplicité pour sortir éventuellement des habitudes d'usine à gaz et donc je vous présenterai je dirais le plus techniquement possible mais le plus simplement possible en même temps des solutions je dirais très faciles à mettre en œuvre et très efficaces pour vous donner un petit mot pour vous allécher des maisons de 100 mètres carrés habitables qui sont chauffées pour 100 € par hiver par exemple c'est possible et assez simplement.
Moi, ma démarche, elle est venue un petit peu, je dirais, parce que dans les gens qui venaient me voir avec des projets de construction, il y avait beaucoup de gens qui ne pouvaient pas financer le modèle classique. Bon, bien sûr, en dehors de l'autoconstruction, qui est aussi une très bonne solution, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se permettre, pour différentes raisons, l'autoconstruction. Et donc là, les installations solaires, les modèles classiques avec des planchers chauffants en circulation d'eau, avec des ballons de stockage, des panneaux solaires sur le toit, etc. Beaucoup de gens ne pouvaient pas se payer ça. Et donc, moi, ayant une formation en génie climatique, génie thermique, technologie de construction, etc., enfin, une solide formation bâtiment dans un peu tous les corps de métier et dans toutes les approches, j'ai tout simplement dit, mince, il y a quand même une réponse possible, certainement, pour rentrer dans des solutions techniques plus simples et pour rentrer aussi dans des coûts de construction qui soient acceptables pour des gens qui ont des revenus relativement modestes. Alors je me suis aperçu d'une chose, alors bon j'ai je dirais la particularité que j'habite dans le Morbihan, que j'habite dans une région bretonne où traditionnellement on a finalement un climat pas si défavorable que certains voudraient le dire en termes d'ensoleillement, et qu'on a aussi la chance d'avoir pratiquement partout des capteurs solaires gratuits sur nos toits, à savoir un toit en ardoise, et que quiconque est allé se promener quand il y a du soleil dehors sous une toiture ardoise sait que là-dessous ça chauffe. Ça chauffe, c'est gratuit, et le capteur il est gratuit aussi parce que c'est votre toiture. Alors je me suis dit, mais pourquoi pas utiliser ce potentiel chaleur? Alors, autre problème, effectivement, cette chaleur-là, elle est quand même là plutôt, je dirais, entre Pâques et la Toussaint, grosso modo, et moins quand même l'hiver. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une solution pour, je dirais, pas faire vraiment du stockage, mais plutôt du maintien de température? Donc, j'ai travaillé sur des principes de masse thermique, c'est-à-dire que, bon, j'avais déjà travaillé, comme quand on travaille l'architecture bioclimatique, sur les principes de masse thermique. Mais je me suis dit, il y a peut-être moyen quand même d'aller plus loin dans l'utilisation des principes de masse thermique pour avoir un volant d'inertie suffisant pour pas, je dirais, pas pour chauffer la maison, mais pour l'empêcher de se refroidir. Parce que bon, chauffer une maison sur les principes de masse, ça marche sur du quand même assez court terme, mais c'est plutôt dans l'autre sens que ça va être intéressant, c'est-à-dire que ça va empêcher la maison de se refroidir au-delà de certaines limites. Donc je suis passé, je dirais, dans une phase de bureau d'études assez poussée pour modéliser les transferts de chaleur, etc., comment ça se comportait et tout. Et puis j'en suis arrivé qu'en fait à l'idée que bon, toute maison, je dirais, a un soubassement, et que plutôt que de faire ce qu'on voit d'habitude, c'est-à-dire des vides sanitaires et des maisons qui n'ont pas les pieds sur terre, alors donc bon, les gens souvent ont du mal aussi à les avoir, donc parce que je travaille aussi, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais je fais du feng shui, de la géobiologie, etc., donc la circulation des énergies, le bien-être, ça fait partie de la démarche, et donc je faisais déjà des maisons, moi, sur terre-plein plutôt que sur vide sanitaire, parce que ça me paraissait logique d'avoir les pieds sur terre. Et donc j'ai eu l'idée de me servir de cette masse, finalement, de terrain qui se trouve sous la maison pour faire des transferts de chaleur et donc faire ce qu'on appelle une masse thermique permanente qui va se trouver sous la maison sous environ un mètre d'épaisseur et qui va permettre de recevoir de la chaleur provenant de cette récupération sous la toiture ardoise, mais qui va aussi réguler les transferts de chaleur internes. C'est-à-dire comme cette masse thermique elle va pas être isolée de l'atmosphère de la maison, contrairement aux maisons habituellement qui ont une chape et puis avec une isolation en polystyrène en dessous, et on est dans une bouteille entièrement fermée. Là, on isole verticalement, on isole sous le toit, bien sûr avec des matériaux biocompatibles, c'est mieux, mais on va pas du tout isoler, je dirais, la masse thermique. On va l'utiliser en on va l'isoler en périphérie, tout autour de la maison, mais on va pas mettre d'isolation horizontale. À un mètre de profondeur, je dirais en Bretagne, on a à peu près une température constante du terrain sous une maison de l'ordre de 14 à 15 degrés, à un mètre de profondeur, hein, pas une maison sur terre plein. Donc on n'a pas besoin non plus, compte tenu des modes de transfert de chaleur en physique, hein, bon, je vais pas faire un cours de physique non plus, on n'a pas besoin d'isolation même à un mètre de profondeur. On isole que la piscine, je dirais, mais qu'on va remplir après, quoi. Alors on va construire ensuite une maison au-dessus. Alors ça, c'est ce qui est intéressant, c'est que la conception architecturale et technique de la maison se fait complètement de manière globale. Bien sûr, il faut que ce qui est au-dessus corresponde à ce qui est en dessous. C'est logique. Il faut que la masse thermique soit en complète corrélation, synergie, je dirais, avec l'architecture et les volumes qui sont au-dessus. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce système permet déjà deux avantages. Le premier, c'est un avantage financier. Le capteur solaire, toiture ardoise, bah, il existe, il est là. Le captage de cette chaleur, le faire circuler vers la masse thermique, c'est pas très compliqué parce que c'est un réseau de tuyaux qui va circuler avec des petits ventilateurs tout simples qui peuvent même être en 12 volts avec un panneau photovoltaïque si on veut aller jusque là. Et on va faire passer de l'air chaud dans des tubes dans cette masse thermique. Et on va avoir forcément, par différentiel de température, un transfert de chaleur. Hein, donc ça, ça coûte pas cher. L'autre point intéressant, c'est que quand on va enlever de la chaleur récupérée au-dessus des chambres, à l'étage, dans les combles, etc., bah, c'est autant de chaleur qui va pas aller vers l'intérieur de la maison l'été. Donc aussi, on va aider à ce qu'on ait une climatisation, entre guillemets, mais naturelle, aussi du bâtiment. Autre point intéressant, c'est que comme on a une masse thermique très importante sous la maison, on a également une climatisation naturelle du bâtiment. C'est-à-dire que l'été, cette masse thermique va aussi capter de la chaleur par transfert direct entre l'atmosphère intérieure de la maison et ce qui se passe en dessous. C'est qu'en même temps, donc, on va réguler complètement la température de l'intérieur de la maison. Donc on s'aperçoit que ces maisons, finalement, sont très agréables à vivre parce que elles ont un comportement thermique très très doux. Hein. Donc on peut se permettre d'avoir des très grandes baies vitrées, par exemple, pour faire du solaire passif. Et l'été, même si on a 30 mètres carrés de baies vitrées plein sud, comme la masse thermique régule et absorbe en direct, on a des montées en température interne qui sont beaucoup plus basses que si on avait une maison isolée par l'intérieur classique. Alors ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que ce système-là est facile à mettre en œuvre, hein, que ça soit avec des entreprises, que ça soit en autoconstruction, et je dirais coûte moins cher, malgré les aides et les crédits d'impôt, en réalisation que le système classiquement proposé de panneaux solaires à circulation d'eau sur le toit, avec des planchers chauffants à circulation d'eau. Hein. Donc ça c'est intéressant de le souligner. Au niveau des objectifs, on atteint quand même des performances intéressantes, c'est-à-dire que sur une maison, je dirais, assez classique de conception, mais bon, avec peut-être des surfaces vitrées, parce que bon, il y a le solaire passif dont j'ai parlé, mais il y a aussi les entrées par vitrage, on arrive à obtenir assez facilement des consommations de chauffage par hiver, puisqu'il faut quand même avoir un petit poêle en appoint, un petit peu de chauffage d'appoint pour certains jours, mais pas grand-chose. On arrive à descendre assez facilement en dessous de 150 euros de chauffage par hiver pour 100 mètres carrés habitables. Moi, j'en ai même certaines qui sont à 100 euros pour 100 mètres carrés, quoi. J'ai une maison, entre autres, qui fait à peu près 120 mètres carrés habitables. La personne la chauffe avec un petit poêle d'appoint avec environ deux cordes de bois, quoi, deux tiers de ster, hein, donc à peu près 100 euros de bois pour 120 mètres carrés habitables. Bon, celle-là est très performante, hein, mais bon, c'est pour vous donner un ordre d'idée des objectifs qu'on peut atteindre. Alors bien sûr, parce que bon, la question se posera pour l'eau chaude sanitaire, bien sûr, on a effectivement la solution du panneau solaire avec le ballon solaire classique, parce que avec de l'air, on va pas pouvoir, je dirais, chauffer de l'eau à une température suffisante. Donc pour l'eau chaude sanitaire, il faudra passer par un chauffe-eau solaire, bien sûr. Alors, je dirais, avant de vous passer la parole, de vous poser, que vous puissiez vous poser des questions, je voudrais quand même aborder un petit détail qui m'est, je dirais, particulièrement apparu ces derniers temps. J'ai fait un voyage en Allemagne il y a à peu près un mois et demi. Je suis allé dans la région de Freiburg, comme Patrick Baronnet quelques mois avant. Et puis, j'ai été voir ce que faisaient les Allemands en matière de développement durable. Et entre autres, j'ai été particulièrement attentif à ce que aux solutions qu'ils proposaient en matière d'habitat bioclimatique. Et j'ai été assez étonné quand même de voir qu'ils étaient très très en avance sur nous dans bien des domaines, mais en même temps qu'ils étaient très très restés dans ce modèle très high-tech, utilisation de systèmes complexes qui fonctionnent en même temps, hein, que je critique pas non plus, ça marche, mais qui sont quand même très très métal, très très matériaux high tech, etc. Et qu'ils avaient très très peu travaillé en fait des solutions plus alternatives. Et quand j'ai posé la question plusieurs fois en ce qui concerne les solutions que j'ai vues, effectivement, apparemment, ils n'ont pas tellement, pris d'orientation, je dirais, très écologique au niveau des matériaux, quoi. Hein. Ils ont beaucoup privilégié la performance, hein, beaucoup privilégié les solutions industrielles et technologiques qui fonctionnent, mais par contre, ils n'ont pas tellement développé effectivement une réflexion. Il y a beaucoup de bâtiments avec finalement des isolants classiques en laine de verre, en laine de roche, du béton, beaucoup de métal. Et c'est vrai que même si nous Français on peut se sentir très très en retard et même à la limite déprimé quand on revient de là-bas et qu'on retrouve nos conditions habituelles, effectivement non plus il faut pas penser que tout est parfait, hein, voilà, et que peut-être nous avec le retard qu'on a, il va falloir maintenant mettre les bouchées doubles et le rattraper, mais peut-être pas non plus prendre les mêmes orientations. On a aussi la chance d'avoir dans une grande partie du territoire français un climat un peu plus clément, hein, donc peut-être qu'on prendra pas les mêmes orientations sur tous les éléments. Moi, ce que je voudrais dire pour conclure avant de vous passer la parole pour les questions, c'est que on va souvent chercher bien loin, on fait souvent très très compliqué alors qu'on a des solutions très très simples qui sont à notre portée, mais qu'on connaît pas, qu'on voit pas, parce que finalement, qui est-ce qui fait de la pub, qui est-ce qui met en avant des systèmes, c'est toujours les gens qui vendent des choses, hein, donc les solutions qui n'utilisent pas beaucoup de matériel sont pas intéressantes pour les structures industrielles et commerciales. Donc moi, je suis là pour vous dire qu'il y a aussi des solutions différentes qui fonctionnent, voire même mieux, et qui donnent des très bons résultats. Moi j'ai des clients à moi qui ont des maisons qui fonctionnent comme ça depuis de nombreuses années maintenant et qui en sont parfaitement contents. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas s'il y a un micro dans la salle. Oui. Qui veut attaquer le débat?
Oui, bonjour monsieur. Je suis également maître hors tout corps d'état. Et je connais très bien le bâtiment puisque j'étais entrepreneur également. Donc j'ai bien compris votre système qui ressemble un peu à un genre de piscine en somme, ou d'un bloc ou de plusieurs blocs avec des tuyaux ventilés qui est d'air chaud au travers de ceci ou cela. Hein? Bon, je voulais savoir si c'est sur l'ensemble du bâtiment et s'il n'y a pas un inconvénient au point de vue jeune concernant le train de vie, quoi, au point de vue santé, au point de vue tout, et l'eau, comment elle se transforme peut-être en, je sais pas, ou est-ce que l'eau qui stagne en somme dans le fond, là, il n'y a pas d'eau? Ah bon, d'accord, il n'y a que de l'air chaud, excusez-moi, j'ai mal compris.
Oui, il fallait peut-être que j'explique effectivement le plus en détail comment se fait le stockage. Alors le stockage se fait de manière simple, hein. Donc effectivement cette fameuse piscine, hein, si on peut appeler comme ça, c'est-à-dire que avant de construire la maison, la partie qu'on va voir, effectivement, on va descendre à peu près un mètre de profondeur les fondations, on va faire des murs, hein, et on va faire sur une maison simple un grand rectangle, une piscine. On va bien isoler la périphérie, bien sûr, et à l'intérieur, on va effectivement remplir avec du matériau compacté. Généralement, moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est de l'arène granitique naturelle, hein, c'est-à-dire du sable qui est le résultat de la décomposition naturelle du granit, hein, c'est un gros sable jaune que les travaux publics utilisent d'ailleurs pour quand ils font les routes, hein. C'est un matériau qui se compacte à la plaque vibrante très très bien, hein, en compact par couche, hein, parce qu'après, la dalle va être posée flottante dessus, hein, puisqu'on a l'isolation qui remonte forcément, donc la dalle ne touche pas les murs, hein, on a une isolation continue. Et donc, c'est à l'intérieur de ce remblai, de cette masse thermique, que vont passer les tuyaux dans lesquels circule de l'air. Alors, effectivement, la question par rapport à la santé, souvent, on critique beaucoup les planchers chauffants à circulation d'eau, parce que certaines personnes sensibles à la présence de l'eau, les géobiologues, etc., ne sont pas très favorables à la circulation d'eau. Ce système permet effectivement de s'affranchir complètement de ce problème, puisque c'est de l'air qui va circuler, que cet air il vient effectivement du comble, hein, au-dessus de la toiture, et qu'il y retourne d'ailleurs, hein, parce que c'est une boucle comme avec une chaudière. Et que cet air-là, il passe avant d'être pulsé par les petits ventilateurs, hein, il peut y avoir 1, 2, 3 circuits d'air, suivant la taille de la maison, passe dans un petit filtre pour pas que on encrasse le circuit, donc le circuit reste très propre. Le transfert de chaleur, bien sûr, va se faire entre l'air qui passe dans le tube, à travers la paroi du tube, pour être transféré à la masse, quoi. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, il y a des transferts permanents entre l'atmosphère de la maison. C'est-à-dire que si on était dans une maison ici, ben, l'été, il fait très chaud, il y a de la canicule. Mettons qu'il fasse dans une maison, on a pu le voir les jours derniers, des fois jusqu'à 27, 28 degrés, voire plus dans certaines maisons mal faites. Donc, forcément, la masse thermique va absorber cette chaleur, donc réguler la température aussi intérieure de la maison. Et toute cette chaleur qui va être aussi absorbée par la masse va pouvoir, dans des jours moins cléments au niveau de température, être restituée. Donc il faut voir que cette masse thermique, elle vous régule complètement, la température intérieure de la maison. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'aura pas besoin de faire un petit peu d'appoint ponctuel à certains moments, mais très très peu.
On voit ici sur l'éco-festival qu'il y a des maisons en bois, des maisons en terre, des maisons en briques. Est-ce qu'il y a un type de matériau qui est plus propice à une bonne répartition des masses telle que vous l'évoquez sur votre habitat passif?
Alors la question des matériaux est toujours intéressante puisque au-delà du fait que ça peut être aussi un choix, de sensibilité personnelle, il y a des maisons qui sont des gens qui sont plus attirés par la brique, d'autres qui sont plus attirés par le bois. Effectivement, les matériaux se comportent pas de la même façon. Moi j'ai parlé de la masse thermique qui est au sol, mais il y a aussi, bien sûr, et ça contribue au confort et au volant d'inertie de la maison, les matériaux qui constituent les murs, les cloisons, etc., toutes les structures du bâtiment. Moi, j'aurais tendance à dire que dans tous les cas, plus un bâtiment a d'inertie, plus il a de masse thermique, plus il a des chances d'être, confortable, d'une part, et aussi de demander un apport minimum. Alors, bien sûr, si on compare, par exemple, une maison avec des murs pleins, par exemple, avec une isolation par l'extérieur, hein, qui sera un peu l'idéal, on ferait un mur plein, alors qu'il soit en terre, ou le pire des cas, pour certains peut-être, mais très efficace au niveau stockage en béton. Donc ça pourrait être un béton peut-être de chaux, on aura une différence parce que le mur en bois, je dirais qu'il a une capacité de stockage qui est quand même relativement faible par rapport à un mur lourd. Cela dit, pour avoir expérimenté largement les deux solutions, maison ossature bois à isolation intégrée, donc faible inertie, mais quand même avoir la masse thermique, je dirais qu'en règle générale, on a déjà des très très bons résultats sur une maison en bois. Donc j'ai tendance à dire que il n'y a pas non plus d'impossibilité d'utilisation d'autres matériaux. J'ai plutôt moi tendance à ramener ça effectivement vers la sensibilité de chacun, parce que la masse thermique qu'on utilise effectivement au sol est tellement importante, elle a un tel volant d'inertie, parce que généralement sur une maison par exemple qui va faire 70-80 mètres carrés au sol, hein, ce qui est souvent le cas d'une maison classique avec un étage, on arrive quand même à, je dirais, entre 180 et 200 tonnes de matériaux qui participent à la masse thermique, hein. Donc je peux vous dire que ça met à peu près 2 à 3 ans en moyenne pour être optimisé en température, mais quand on est arrivé à la bonne température de bascule thermique, ça marche très bien. Et si on a des murs en bois, ça sera pas tellement gênant, quoi.
Bonjour, 2 questions sur ce sujet très intéressant, puisqu'il est très peu débattu, ce sujet de masse thermique au niveau d'AL. La première, c'est pourquoi est-ce que vous avez recours plutôt à de l'air plutôt qu'à de l'eau, puisque la chaleur spécifique de l'air est très très faible par rapport à celle de l'eau. Ça veut dire que l'air accumule beaucoup moins de calories, de chaleur, que l'eau. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est n'avez-vous pas peur avec une dalle comme ça aussi, quand même un mètre de profondeur, c'est pas mal. Hein, donc d'où l'inertie effectivement de la masse. Mais est-ce qu'on ne chauffe pas plutôt le sol que la maison? Voilà.
Alors la première question est fort intéressante parce que effectivement, comme le dit monsieur très bien, le transfert de chaleur serait beaucoup plus optimum avec de l'eau, qui est un meilleur fluide qu'un porteur, qui, je dirais, a une capacité d'emmagasiner de la chaleur plus importante que l'air. Effectivement, ça marcherait bien mieux avec de l'eau. Pourquoi j'ai choisi l'air? Ben, c'est un petit peu parce que par rapport à ce que je disais au début, j'ai essayé de trouver des solutions simples et le moins cher possible. Donc à partir du moment où on n'a pas de transformation de chaleur assurée, qu'on fait un transfert direct, ben effectivement on a moins de problématiques, on rentre moins dans l'usine à gaz, on pourrait être tenté simplement de capter de la chaleur sous le toit, de mettre une pompe à chaleur et de transformer ça, je dirais, avec un coefficient, je dirais, de rendement bien meilleur. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Il faut pas oublier, je dirais, que effectivement le fluide air n'est pas génial, mais que ça va se faire toute l'année. Hein. Bon, avec plus de puissance l'été que l'hiver, mais quand même ça marche même en hiver, un jour où il fait moins 5 dehors et où on a un très très beau soleil sur une toiture bien sud, on arrive à monter des fois à 30-35 hein, en température d'air dans le comble. Donc ça marche toute l'année. D'autre part, ça reste très simple, vous n'avez pas de capteur, sinon un capteur qui est votre toiture, donc celui-là, bon, je dirais, il est très fiable dans le temps. Vous n'avez pas de transformateur de chaleur, donc pas de mécanique, vous avez juste des petits ventilateurs de gaine, hein, petits ventilateurs qu'on peut trouver même, je dirais, dans le magasin de bricolage du coin, aux alentours d'une cinquantaine d'euros, hein, voire même certains en ont trouvé moins cher. Vous avez un thermostat qui prend la température du comble et qui va commander la mise en route du ventilateur ou des ventilateurs, et après vous avez un réseau de tubes. Bon, malheureusement, pour l'instant, on n'a pas d'autres alternatives pour des questions de coût que de travailler avec du tube diamètre 100 en PVC, parce que ça vaut 2 euros à peu près, ou même un peu moins le mètre, et que les alternatives plus écologiques telles que le tuyau en grès, etc., bon, coûtent 10 fois plus cher. J'espère qu'en France, on aura bientôt une interdiction, je dirais, au moins partielle du PVC, et qu'on passera au polypropylène, qui est quand même plus propre, que certains pays utilisent déjà. En France, pour l'instant, moi je me suis renseigné, si on veut des tubes en polypropylène de diamètre 100, on va les payer à peu près 11 fois plus cher que le PVC, donc bon, c'est prohibitif. Alors, le système est simple, c'est surtout ça qui est hyper important. Et faut pas oublier que le transfert thermique se fait aussi de manière directe. Hein, c'est-à-dire qu'on a le transfert de chaleur récupéré sous le toit, mais on a les transferts permanents d'interaction entre la dalle, la masse thermique, et puis l'atmosphère de la maison. Alors, c'est pas une dalle hein, sur un mètre d'épaisseur, c'est du remblai compacté, un peu comme du sable, compacté par couche à la machine, et il n'y a qu'à la fin qu'on coule une dalle dessus, effectivement, hein, et puis après on a un revêtement de sol. Alors la deuxième question, à savoir, est-ce que la chaleur fout pas le camp par le bas? Ben moi je vais vous donner une image très simple. Bon, beaucoup de gens ont un ballon d'eau chaude. Un ballon d'eau chaude, ça se comporte comment? Quand vous tirez de l'eau chaude, elle est remplacée par la froide. Généralement, l'eau chaude, bon, et beaucoup de ballons électriques, elle est pas faite en permanence, elle est faite en heure creuse. Alors comment ça se fait que, avec de l'eau qui arrive à pratiquement 10 degrés et de l'eau qui est à 60 en température de départ, quand la froide remplace la chaude, pourquoi tout ça se refroidit pas très très vite? Parce que là, le delta T, la différence de température, est de 50 degrés. Hein, alors que dans notre cas, finalement, on a une masse thermique qui est censée être aux alentours, si elle a bien été calculée, optimisée, de 22-23 degrés maximum, parce qu'il ne faut pas qu'elle vous chauffe l'été, hein, donc elle est calculée pour pas dépasser ses valeurs, et vous avez 15 degrés à peu près constant en dessous, à un mètre de profondeur. Donc le delta T, la différence de température, elle est de 7-8 degrés à peu près. Donc les transferts thermiques vers le bas, en plus, sont relativement minimes, parce que les transferts de chaleur se font quand même plus vers le haut que le bas. Tout le monde sait que la chaleur, ça a tendance à monter. Donc les transferts chaleur, je dirais, à un mètre de profondeur vers le bas, sont, je dirais, pas négligeables, ils existent, mais sont pas très importants. Si on voulait, je dirais, peut-être améliorer le système, bah effectivement, on pourrait isoler à un mètre de profondeur de manière horizontale. Mais moi, personnellement, et par expérience, je pense que c'est pas nécessaire.
Oui, bonjour. Voilà, moi j'ai un projet en autoconstruction et je voulais savoir, vous avez parlé de matériaux biocompatibles pour l'isolation de la piscine, enfin des fondations du remblai. Qu'est-ce que vous utilisez comme matériau, quelle épaisseur
La question de l'isolation, effectivement, de la piscine ou du bac à sable, je ne sais pas comment l'appeler. Je travaille de temps en temps avec deux architectes de Nantes, Roselyne et Maria, qui appellent ça le bac à sable. Ça les fait beaucoup rire, mais en même temps, elles trouvent que ça fonctionne très bien. Et donc c'est une bonne question parce qu'on se retrouve dans un contexte assez peu favorable à une isolation écologique puisqu'on va être en contact, je dirais, d'une part avec le mur de soubassement et la terre, parce que des fois on fait cette isolation par l'extérieur ou par l'intérieur, ça dépend un peu de la technologie de construction utilisée. Mais dans tous les cas, on est en contact avec les matériaux et l'humidité, etc., et des agents chimiques naturels du sol. Donc on peut pas se permettre d'utiliser n'importe quel matériau. Alors quand on n'est pas très très bio et qu'on fait des compromis et qu'on veut aussi que ça coûte pas trop cher, on peut utiliser, je dirais, du polystyrène extrudé, sachant que quand il va être il va pas être en contact avec les UV, il va être assez stable. Mais bon, moi je préfère aller vers d'autres solutions. À l'autre bout, quand on veut être très écologique, le seul matériau écologique qui va être, je dirais, performant, parce qu'il faut en même temps que ça soit un très bon isolant, ça va être le liège, hein, mais qui est aussi critiqué pour d'autres raisons sur le plan écologique, au niveau de la production, etc. Puis ça coûte très cher. Il y a un matériau qui, je dirais, peut être un bon compromis, je dirais, c'est le verre cellulaire, hein, ce qu'on appelle le foam glass, qui est un matériau de fabrication synthétique, mais à base de verre, donc qui est quand même plus écologique, plus transparent pour l'environnement que le polystyrène extrudé, hein, et qui a des propriétés thermiques intéressantes. Donc moi, j'aurais tendance à plutôt m'orienter vers ces solutions-là. C'est un peu plus cher, hein, que le styrodur. Bon, quand les clients, parce que bon, moi j'ai des clients, donc on en parle, il y a un budget à respecter, donc on est obligé des fois de faire des choix, et entre deux mots, faut choisir le moindre, comme on dit. Quand les clients choisissent effectivement d'aller vers un polystyrène extrudé, parce qu'il va être efficace, parce qu'il va être en atmosphère protégée, je dirais un peu en contact des UV, qui va pas se dégrader, comme ça serait le cas s'il était dehors ou dans d'autres conditions, je vais toujours vers des solutions les moins problématiques possibles. C'est-à-dire qu'il y a des polystyrènes extrudés, je vais pas citer de marque, mais qui sont sans CFC garantie, certains produits qui viennent d'Allemagne d'ailleurs. Hein. Mais bon, j'aurais tendance à privilégier quand même d'aller vers des matériaux plus écologiques.
Donc on a évoqué le liège, et dans ce cas-là, au plan de la mise en œuvre, il est posé à l'intérieur, c'est-à-dire entre le mur de fondation et la dalle, si j'ai bien compris.
Il faut voir que la masse thermique, elle se fait sur à peu près en moyenne, hein, parce que là, c'est l'étude thermique et le comportement thermique global de l'ensemble masse plus bâtiment qui détermine aussi tout ça. Mais en moyenne, on peut dire qu'on va être aux alentours d'un mètre. Donc, bien sûr, la dalle porteuse, la dalle sur laquelle vous allez faire votre sol, elle va pas faire un mètre d'épaisseur. Hein. Vous avez effectivement le matériau compacté qui lui va faire 90 cm et vous allez terminer par une dalle qui va faire 10 cm à peu près. Donc le matériau, il va être en contact généralement avec le matériau de remblai compacté, il va être en contact sur 10 cm avec la dalle. Hein. Et si vous utilisez du liège, moi je conseillerais d'éviter de faire une isolation par l'extérieur parce que bon, le liège va être en contact avec le sol extérieur direct et va risquer, d'avoir des agressions, alors qu'à l'intérieur, il va être quand même beaucoup plus protégé. Hein. Ce qui n'est pas forcément le cas avec le verre cellulaire. Parce que bon, ça sera un peu bête de mettre du liège et puis de rajouter un Delta MS ou un produit plastique par-dessus pour le protéger.
Moi, j'avais une question de savoir si la nature du sol primaire influait beaucoup sur le comportement de la masse thermique.
Alors c'est intéressant parce que de toute façon, avant de construire une maison, on fait toujours une étude quand même assez approfondie de là où on va la mettre. Hein. Donc moi systématiquement, avant de travailler sur un projet architectural, il y a une étude géobiologique, on peut utiliser l'outil Feng Shui également, pour faire un bon diagnostic des natures de terrain. On peut être aidé aussi par les bureaux d'études en assainissement, puisque maintenant c'est obligatoire toujours pour construire d'avoir une étude de perméabilité des sols, donc avec des carottages qui descendent généralement à 1 mètre, 1 mètre 20. Bon, le géobiologue détermine quand même pas mal de choses. Moi, je travaille, je dirais, avec principalement un géobiologue qui me dit à 5-10 cm près les natures de terrain. Hein. Et s'il faut, si je suis pas tranquille, je peux très bien faire un sondage. Hein, mais effectivement, moi, je tiens compte de la nature des terrains. Même pour la masse thermique, pour le fonctionnement de la masse thermique, c'est important. Si par exemple on tombe sur un terrain où il y a de la roche à 40 cm, il est bien évident qu'on va pas se payer le brise-roche, etc., pour descendre bas. Et à ce moment-là, on va essayer de remonter un peu la maison. Hein. On va, je dirais, toujours s'adapter à ce que la nature nous donne, hein, parce qu'il s'agit pas non plus de violer tout ça, hein, il s'agit d'y aller en douceur. Donc c'est quand même le terrain tel qu'il est qu'on va utiliser. Alors bon, je dirais que le terrain influe à mon avis relativement peu sur le comportement de la masse thermique, parce que la masse thermique elle est faite à l'intérieur, hein, elle est un peu protégée par rapport à ça, quoi. Il faut faire attention aux problèmes d'eau. Hein. Moi personnellement, de toute façon, pour d'autres raisons, j'inviterai jamais des gens à construire dans un ancien marais ou dans une zone trop humide, parce que bon, c'est une zone qui va pas forcément être très propice au bien-être et à la qualité de vie. Donc, j'essaie quand même d'aller sur des zones qui ont une bonne caractéristique de transfert d'humidité, etc. De façon à ce qu'on soit pas gêné sur d'autres plans.
Donc, bonjour. Je voulais savoir si votre système pouvait être combiné avec un puits canadien ou si ça avait si ça faisait double emploi.
Alors c'est aussi une très bonne question. Je dirais que bon, moi j'ai pas abordé non plus tous les détails de système, parce qu'il y a ce système-là. Je dirais il fait partie d'un ensemble de conceptions du bâtiment. Hein, il n'est pas tout seul. J'en parle parce qu'aujourd'hui je suis là pour parler un peu de la maîtrise de l'énergie et de solutions alternatives, mais par exemple, je pourrais dire que tout le renouvellement d'air de la maison, au lieu de se faire comme d'habitude par des entrées d'air sur les fenêtres ou les coffres de volets roulants, et on rentre de l'air quand il fait moins 5 dehors à moins 5, moi je fais toujours passer l'air dans un tube de préchauffage dans la masse thermique pour que l'air, quand il arrive dans la maison, arrive à une certaine température. Donc la maîtrise des dépenses énergétiques de la maison sont aussi passe par là. Bon, le puits canadien, je dirais, a une fonction plus vaste que le renouvellement d'air. Moi, personnellement, le puits canadien ou puits égyptien, parce qu'en Égypte ancienne, on utilisait déjà ces systèmes, est pour moi une solution qui marche très bien, mais qui est un petit peu un luxe dans un climat breton. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le sud de la France, on n'est pas en Afrique du Nord, on a un climat. Bon, ou à mon avis, si la maison a un comportement thermique cohérent, on n'a pas forcément besoin de ces solutions-là. Je dis pas que j'y suis totalement opposé, non, ça fonctionne très bien, mais quand on va regarder ça de près d'un point de vue des comportements thermiques et des maîtrises des températures et de l'hygrométrie, etc., c'est pas du tout, je dirais, un passage obligé, quoi. Mais on peut le faire. Hein. Ah ben, de toute façon, moi je vois pas travailler avec des gens qui mettraient de la climatisation. Ou alors faut qu'ils la mettent quand je suis parti, parce que bon... ils auront pas besoin d'en mettre, hein, parce que
oui, j'ai une question. Je voulais savoir à quelle température à peu près se trouve la dalle entre l'été et l'hiver. Et également, est-ce qu'on pourrait imaginer utiliser le sol qui est déjà là au lieu d'amener de l'arène granitique? Ou quel type de sol on pourrait utiliser, quel type de sable?
Oui, alors bon, je dirais que on peut très bien utiliser le terrain, hein, naturel. Bon, on va pas non plus, je dirais, on est toujours obligé d'enlever la terre végétale, hein, donc il y aura forcément, je dirais, un peu de remblai à faire, mais on peut très bien utiliser le terrain naturel, hein, s'il est d'une nature et d'une composition qui le permet. Hein, c'est pas impossible. Quant à la variation de température de la masse thermique, elle est très faible en fait. Hein. C'est-à-dire que bon, il y a un gros volant d'inertie. Donc il faut quand même, hein, moi les premières simulations et qui se sont vérifiées après dans la pratique que j'avais fait me donnaient à peu près en moyenne 2 ans et demi, 3 ans avant d'arriver à une température assez optimum. Donc ça veut dire aussi que les premières années, on chauffera peut-être un petit peu plus la maison. hein, mais on a, je dirais, une température assez constante parce que, bon, vous savez, pour refroidir 200 tonnes d'un degré, il faut du temps pour l'amener en température aussi, mais une fois que, bien sûr, si ça a été bien calculé, une fois que c'est en marche, ça marche très bien et ça se comporte de manière assez statique, quoi. C'est l'avantage, je dirais, des grosses masses thermiques par rapport à des faibles masses thermiques qui ont des volants d'inertie beaucoup plus... on parle par exemple, je dirais, du volant d'inertie d'une maison un peu plus classique. Ben, il a fait beau dans la journée, les meubles et tout ça, les cloisons ont emmagasiné un peu de chaleur et ça va se restituer pendant la nuit. On parle de ça aussi avec le principe des monomures en terre cuite, hein, avec les différés de transfert thermique. Mais là, on est dans une masse thermique quand même assez colossale par rapport à tout ça, quoi. La masse thermique, elle est calculée pour atteindre, je dirais, un optimum, bon, elle est calculée aussi pour ne pas dépasser 22-23 degrés, parce qu'il faut pas que l'été, elle chauffe la maison, mais elle est calculée, effectivement, pour tourner aux alentours de je dirais, d'une plage de température entre 18-19 et 22-23 degrés, quoi. Hein, de façon à, je dirais, à être dans une gamme de confort thermique cohérent, quoi. Alors on part au départ avec une température qui est plutôt de l'ordre de 14, hein, 13-14, et effectivement pendant un certain temps on va réchauffer cette masse, quoi. Et après on la maintient, mais elle se maintient, je dirais, d'elle-même. C'est-à-dire que bon, il y a un peu de calcul à faire, hein. C'est-à-dire que c'est quand même le système est très très simple quand on le regarde, le captage, ventilateur, thermostat, tuyau, c'est tout bête à mettre en œuvre. Par contre, au niveau de la modélisation, c'est vrai que c'est quand même du niveau ingénieur en génie thermique, hein. Donc il y a un peu de calcul à faire. Mais ça marcherait, même si on fait pas de calcul, mais ça marcherait peut-être moins bien, ou faut quand même essayer d'optimiser ce qu'on fait et de le faire de manière cohérente, quoi. Bon, si on le fait au pif, je dirais pas que ça va pas marcher, mais bon, on risquera peut-être de la surchauffe, ou alors on en aura pas mis assez. Moi, j'ai vu des projets qu'on m'a amené des fois en disant ça marche pas ce truc-là, bah, envoyez-moi les plans, ce qui a été fait. Je me souviens de gens que j'avais rencontrés qui m'avaient envoyé un projet qui avait été fait il y a une quinzaine d'années avec un architecte en région parisienne. Et quand j'ai vu ce qu'ils avaient mis comme tube, effectivement, pour moi, ça pouvait pas marcher parce que le réseau de transfert de chaleur était sous-dimensionné et puis la conception du bâtiment n'était pas optimisée autour de systèmes, quoi. Et parce que bon, c'est plus une approche de thermicien que d'architecte.
C'était juste pour rebondir sur la question de madame tout à l'heure sur le puits canadien. Parce que de mon côté, je travaille en fait dans un, non pas un bureau d'études justement thermique, mais pour un architecte sur La Rochelle en éco-habitat justement. J'ai repris mes études de thermicien, justement, ingénieur thermicien. C'est pour ça que je posais quelques questions dans ce sens-là. Et on a fait, enfin, j'ai fait quelques modélisations pour le puits canadien. Je rejoins tout à fait ce que vous avez dit. Dans des climats océaniques, où il n'y a pas de très grosses variations, en fait, le puits canadien, on l'a chiffré également, quand même, sans terrassement, c'est de l'ordre quand même de 3000 euros. Alors, je parle d'un puits canadien acheté, type Helios ou autre, hein. Parce que là, on peut citer les marques ou autres, hein, on y va. Autoconstruit, évidemment, c'est beaucoup moins cher, mais après, faut-il pouvoir le dimensionner, faire le terrassement en plus. Globalement, moi, j'arrivais sur un pavillon en monomure, hein, 37,5 de chez Bouygues-Leroux, sur quand même du 100 mètres de longueur, avec sans perte de charge, parce que j'étais sur une seule lignée. J'arrivais un pavillon de 100 mètres carrés à peu près, à gagner l'hiver à peu près 7 à 8% de chauffage en moins, ce qui est pas neutre, hein, vous me direz, pour à peu près 3000 euros, je parle sans terrassement, hein. De l'autre côté, j'ai fait une petite modélisation quand même, bon, quand je dis petite, ça prend du temps aussi, hein. Pour une VMC double flux, par contre, tout de suite, dans le même climat pourtant, hein, vous arrivez à 18% de gain, alors que ça coûte 2500 euros. Donc c'est vrai que bien souvent, moi j'ai été très très surpris, parce que je viens pas de ce milieu-là à la base, mais j'ai fait une reconversion professionnelle. Je suis très surpris, on parle souvent de systèmes, plein de systèmes, beaucoup en parlent. Bon, avec un discours marketing, c'est normal, ils veulent le vendre aussi. Et on trouve de tout un petit peu n'importe quoi quand vous creusez un petit peu. Moi, je suis allé jusqu'à donc téléphoner à des vendeurs. Oui, puis canadien, ça marche très bien, très bien. Vous en avez installé. Oui, bah où ça? Ah bah pas vraiment ici, pas dans notre région, plutôt dans le nord ou plutôt dans le sud, donc avec de fortes variations. Et puis au final, on se rend compte que bah ça marche enfin, ça marche bien, mais il y a tous les critères économiques qu'il faut également prendre en compte, et qu'il y a eu très très peu de calculs de fait. Il y a très peu de sociétés qui sont spécialisées dans le puits canadien. Il y en a une, Canada Clim, sur Paris, mais sinon il y en a très très peu. Hein. Donc il faut faire attention, il faut aller des fois un petit peu plus loin, demander des chiffres, parce que effectivement le système peut paraître intéressant. Maintenant, il faut pouvoir le chiffrer. Voilà, c'est pour ça que je voulais réagir à votre intervention.
Oui, je vous remercie de cette collaboration, parce que c'est important effectivement de parler des différentes solutions et de voir que effectivement une solution peut être très intéressante à un endroit géographique et moins intéressante à un autre. Cela dit, moi je pense que le puits canadien auto-construit reste une solution dans certains cas qui est quand même très intéressante. Sans compter que, bon, moi je parle de Mastermic, etc., mais bon, il y a aussi d'autres solutions. Moi je voudrais un petit peu, je dirais, prolonger ce que vous avez commencé à dire. C'est que moi ma démarche c'est un petit peu de proposer une conception, une réalisation de bâtiments en utilisant des techniques simples, c'est-à-dire en m'éloignant si possible de ce que j'appelle les usines à gaz. Parce que bon, je suis pas là pour faire la critique farouche du solaire tel qu'on le propose d'habitude, avec les panneaux solaires et le plancher chauffant à circulation d'eau, etc. Mais bon, quand même, on peut se poser des questions. Quand vous avez, un local technique qui fait en général de l'ordre de 3 à 4 mètres carrés, parce que vous avez un ballon de stockage, vous avez des pompes, des régulations électroniques, vous avez derrière, vous allez avoir de la maintenance, etc. Et que vous regardez finalement combien c'est le coût au mètre carré habitable hein, de construction, surtout en bio, et quand on fait rien soi-même, on arrive vite à 1200, des fois 1500. Les Allemands étaient à, je crois, 2003, 2005, des fois. Donc ça coûte hein, de la place. Donc, est-ce que les gens qui font des comparaisons entre les systèmes de chauffage incluent toutes ces paramètres hein. Quand vous demandez à un marchand de fioul, mais ça vaut tant le kilowatt. Oui, mais et l'investissement, ouais, mais vous avez compté la place de la cuve dans le garage et puis de la chaudière, etc. Moi, j'ai eu une réflexion en me disant, essayez de faire quelque chose à la fois simple, qui génère très peu de maintenance, qui est facile à mettre en œuvre, c'est-à-dire que aussi, moi, je travaille avec pas mal d'autoconstructeurs, hein, partiel ou total, mais bon, plutôt partiel parce qu'il y a des choses qui sont plus difficiles, mais comment faire simple, quoi? Comment faire simple et comment faire que du simple fonctionne? Et moi, j'ai été, agréablement surpris de voir que ce que j'avais modélisé, calculé sur le papier, fonctionnait, très très bien et effectivement était réalisable avec des coûts relativement bas et surtout en autoconstruction, quoi, hein, parce que bon, en autoconstruction, quand on achète de la laine granitique pour remblayer, on loue la plaque vibrante, on achète du tube PVC à 2 euros le mètre TTC, même s'il y en a de 200 mètres, on achète des petits ventilateurs qui valent 40-50 euros, un thermostat qui vaut 50 euros, tout ça, ça coûte pas très cher, et en plus, ça fonctionne bien, donc... Alors, il y a peut-être une autre question technique qui est intéressante, parce que bon, j'ai parlé de toiture ardoise. Alors bien sûr, on peut aussi travailler avec d'autres matériaux. Bien sûr, il y a des matériaux qui sont pas très favorables avec ça. Hein. J'ai eu l'occasion de travailler avec les architectes de Nantes, avec qui je travaille de temps en temps là sur une maison de Saint-Brévin avec une toiture en tuiles. Là, on a fait un capteur solaire à air de 15 mètres carrés, hein, comme si on avait fait une toiture de véranda, et puis en caissonnant en dessous, on a fait un capteur solaire à air parce que la tuile n'était pas très compatible avec le système. Je viens de finir une étude là pour une maison qui sera construite du côté de Redon avec une toiture en zinc, toiture métallique. Moi personnellement je fais pas de toiture métal, mais là j'ai été sollicité pour participer à ce projet, donc j'attends un petit peu de voir ce que ça donne, mais sur le papier ça donne bien aussi. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la personne qui a fait ce capteur solaire sur Saint-Brévin avec 15 mètres carrés de capteur vitré, bon, il y a deux parties, hein, donc c'est comme s'il y avait deux capteurs, m'a appelé, je crois que c'était au début de l'été dernier ou l'été d'avant. Elle avait fait un essai parce qu'elle avait mis des capteurs de température. C'est une personne qui voulait voir qu'est-ce que ça donnait, etc. M'a appelé en me disant qu'elle avait arrêté le ventilateur l'air pour voir à quelle température on pouvait arriver à monter l'air dans le capteur, hein, qui est un capteur artisanal, et elle était montée à 90 degrés, quoi. Donc je lui ai dit il faudrait peut-être remettre le ventilo en route, hein, parce que la structure est peut-être pas faite non plus pour supporter des telles montées en température. Donc on voit quand même que ce captage d'air a un potentiel qui est quand même vachement important, et on a une chaleur là qui je dirais est sous nos yeux et utilisable, et pourquoi pas l'utiliser, quoi.
Bonjour. Moi, j'avais une petite question technique. En fait, est-ce qu'on peut réduire l'utilisation de tuyaux PVC en remplaçant le gravier, le sable, le remblai par, je sais pas, des gros galets, gros comme la main, et faire une traversée d'air à travers toute la maison, par exemple, toute la dalle?
Alors bon, effectivement, dans certains bouquins d'architecture bioclimatique, il est souvent fait référence effectivement à ce stockage avec des galets. Bah, je peux vous dire que pour faire circuler de l'air à travers des galets, avec les pertes de charge que ça représente, il faut des ventilos qui pulsent et qui vont quand même consommer beaucoup plus de courant et beaucoup plus difficile à maîtriser que ce que je propose. D'autre part, les galets, ben, il faut bien les trouver quelque part. Donc, bon, si vous allez les chercher sur la plage aux alentours de Lorient, à mon avis, vous allez avoir vite des problèmes, hein. Vous n'allez pas faire deux voyages aller-retour, hein. Parce que c'est interdit de les prendre dans la plupart des rivières aussi. Donc, vous allez acheter du galet, bon, finalement en carrière. Bon, ça va avoir un coût avec les transports et tout. Là aussi, moi, je dirais, faisons simple, quoi. Hein. Donc, c'est vrai que je reconnais que le PVC, ça serait mieux qu'on ait autre chose. Bon, certaines personnes critiquent assez violemment des fois le fait que j'utilise du PVC pour le transfert de chaleur. Je suis toujours étonné, c'est pas parfait, hein, je le reconnais, mais je suis toujours étonné que des fois des gens vont critiquer 200 mètres de tube PVC dans une masse thermique, et puis à côté vont trouver normal d'avoir des panneaux photovoltaïques ou des panneaux solaires sur un toit, et ils vont pas se demander s'il n'y a pas beaucoup plus de pollution dans ces panneaux solaires que dans les 200 mètres de tube PVC. Parce que bon, je suis pas un opposant au photovoltaïque, mais il faut quand même reconnaître que c'est pas un produit tellement bio au niveau de la conception et du recyclage.
Oui, bonjour monsieur. Je voulais savoir si votre système peut s'adapter sur une maison déjà construite, avec une toiture ardoise, bien sûr.
Alors ça aussi, c'est une question qui est intéressante. Je dirais que je démarre un projet actuellement dans la région de Vannes sur la rénovation, restructuration de bâtiments en pierre, où on va faire de la masse thermique. On a la chance d'avoir un bâtiment suffisamment ancien pour que les sols aient pas été recouverts de dalles béton, etc. Donc on a le terrain naturel, la terre battue. Donc on va creuser, je dirais, une certaine distance des murs, parce que là on n'a pas de fondation qui descend à un mètre, hein, donc il va falloir être prudent. On va creuser, je dirais, à peu près à 1 mètre, 1 mètre 20 des murs, hein, on va creuser en profondeur pour faire une zone de masse thermique, hein, de façon effectivement à pouvoir faire du stockage et du transfert thermique. Cela dit, pour avoir eu à répondre à cette question-là quand même pas mal de fois, il y a relativement peu de projets qui s'y prêtent, quoi, hein, parce que bon, s'il faut démolir la moitié du bâtiment, ça va être difficile à mettre en œuvre. Donc en règle générale, c'est quand même plutôt quelque chose qui, je dirais, est fait pour de la construction neuve. Hein. Mais ça peut, dans certains cas, je dirais, être fait, réalisé. Et il faut que le bâtiment s'y prête. Il faut qu'on ait une toiture orientée sud. Bien que j'ai fait aussi des projets, même en neuf, avec des toitures orientées est-ouest. Mais à ce moment-là, on va travailler un peu différemment sur les rapports entre solaire à accumulation et solaire passif par vitrage. Quand on est en est-ouest, il faut pratiquement avoir un pignon passif presque entièrement vitré pour que on compense un peu le manque de puissance sur les toitures est-ouest, qui vont plutôt marcher l'été, mais pratiquement rien l'hiver, pour avoir plus de passifs l'hiver. Bon, après, ça se modélise, hein, mais pour en revenir aux bâtiments existants, j'irais dans la grande majorité des cas, les bâtiments s'y prêtent pas, quoi. Hein. Mais il y a des cas, la preuve, j'en démarre un.
J'aurais voulu savoir quelles sont vraiment vos prestations, en fait. Et quel prix, quel coût ça a, et puis comment s'appelle votre entreprise, parce que vous ne l'avez pas dit, il faut faire un peu de pub, je pense, et tu vois.
Bon, alors oui, bon, je suis pas venu ici pour faire de la pub et chercher du travail, parce que déjà, comme je disais à des amis tout à l'heure, en ce moment, depuis 2 mois, je dois être à 15 heures par jour, y compris le samedi et le dimanche, parce que bon, il y a des chantiers qui ont pris de retard et qu'ils devraient être finis, et d'autres qui ont commencé, parce que j'avais été engagé à commencer. Donc, je suis un peu surbooké ces derniers temps. Bon, cela dit, mon activité, moi, je suis concepteur, maître d'œuvre indépendant, donc j'ai une formation d'ingénierie dans le bâtiment, et donc j'ai pas le droit au titre d'architecte, bien que je fais quand même de la conception architecturale dans ce que je fais, hein. mais ça m'arrive aussi de travailler avec des architectes ou d'autres professionnels, puisque j'aime bien en travailler aussi en synergie avec des gens, hein. Donc les choses sont ouvertes. Je travaille aussi avec des autoconstructeurs. Donc mon activité, moi je lui ai donné un nom qui s'appelle Synthèse Habitat, parce que bon, c'est un peu l'idée que de l'approche que j'essaye de mettre en œuvre, parce que bon, là j'ai parlé d'aspects spécifiques, mais bien évident que moi je fais une démarche très à l'écoute des gens avec qui je monte un projet, et très, je dirais, très global, à peu près fidèle de ma démarche. Voilà, et puis autrement, ben je suis basé dans le Morbihan. J'habite un petit village qui s'appelle Locoal-Mindon, à peu près à mi-chemin entre Vannes et Lorient. Je peux participer à des projets, je dirais. Ça peut être du conseil, ça peut être un accompagnement pour une conception jusqu'à un permis de construire. Ça peut être, bon, quand c'est trop loin, faire de la direction de travaux, et bien sûr ça devient prohibitif, parce qu'avec les déplacements. Mais bon, je fais partie aussi d'une chambre syndicale nationale d'architectes, de maîtres d'œuvre, de professionnels, d'experts en bâtiment, etc. Donc j'ai aussi des collègues qui peuvent prendre le relais dans d'autres régions, hein. Donc je peux travailler aussi, je dirais, ça m'arrive avec des architectes locaux, etc. Donc bon, je dirais, tout est ouvert. Moi, je peux intervenir effectivement en tant que bureau d'études, conseil. Je suis pas mal sollicité par des confrères qui veulent effectivement intégrer cette notion de masse thermique dans leur projet, et qui viennent me voir avec, je dirais, un projet que je recadre s'il faut, et puis moi je fais l'étude de la masse thermique. Pour vous donner un ordre d'idée de prix, par exemple, faire l'étude, le cahier des charges, les plans de pose des tuyaux, etc., et puis le descriptif de ce qu'il faut mettre en œuvre, hein, bon, ce qu'on appelle en jargon, je dirais, professionnel, un CCTP, un cahier des clauses techniques particulières. Donc, suivant les tailles de maison, je prends à peu près aux alentours de 1000 à 1200 euros TTC, avec un truc qui est clean, hein, un bureau d'études, quoi. Moi je tiens à dire que bon, je suis quand même professionnel, hein. J'ai mes assurances RC décennales comme tout professionnel. Je suis pas dans le bricolage, j'ai des règles à respecter, des normes, etc. Et donc je travaille dans un contexte très sérieux, très très réglementaire. Ce qui ne veut pas dire que je critique l'autoconstruction un peu bricolée, parce qu'heureusement que ça existe aussi pour ouvrir des voies nouvelles. Moi-même, j'ai fait ma maison il y a 18 ans, et donc, bon, je suis tout à fait favorable à ça. Hein, je peux aussi accompagner, je le fais de temps en temps, des autoconstructeurs dans leur démarche. Hein, mais autrement, si je fais un projet global, je dirais, avec la conception architecturale, les plans, le dossier de permis de construire, tous les appels d'offres, trouver les entreprises, faire le suivi de chantier, je suis à des tarifs similaires à ceux d'un architecte, qui sont généralement de l'ordre de 10 à 12% du montant des travaux. C'est un peu pénalisant pour les petits projets, parce que bon, les petits projets génèrent moins d'honoraires, alors qu'on a pratiquement autant de travail sur une maison de 100 mètres carrés que sur une de 200 quand on regarde au global, quoi. Donc, mais moi j'essaye beaucoup de pousser les gens à aller vers effectivement une part d'autoconstruction, et comme je dis d'autoconstruction, éventuellement accompagner. Moi je suis des gens qui viennent me voir avec un projet, ils n'ont pas forcément les budgets nécessaires pour réaliser leur projet, ce qu'ils ont dans la tête et dans le cœur. Et moi j'essaye de leur dire aussi, mais attention, il y a des choses que vous pouvez faire vous-même. Alors quand ils me regardent avec des yeux comme ça, quand je leur dis, vous pouvez faire votre électricité, votre plomberie vous-même, c'est facile, moi je peux vous faire accompagner. J'ai mis en place sur mon secteur un réseau d'artisans, hein, avec qui je travaille en synergie, et qui peuvent aussi arriver en tant que formateur, donc en électricité, expliquer comment il faut faire, passer une journée, faire les listes de matériaux, faire un plan très détaillé, une nomenclature sur Excel avec des points de repère, et les gens vont économiser sur une installation des fois jusqu'à, je dirais, 3000 ou 3500 euros sur leur installation, parce qu'ils vont pouvoir être accompagnés, mais en même temps faire eux-mêmes ce qu'ils n'auraient pas pensé au départ. et rentrer dans un budget qui au départ paraissait impossible à atteindre, quoi. Donc moi j'essaye toujours d'apporter des solutions pour rentrer dans un cadre qui est donné au départ, hein, et pas dire non ben on peut pas faire, quoi. Je sais pas, Patrick, il est temps que tu tu me remplaces. Bon ben je vous remercie, et puis bon ben peut-être un de ces jours.